mais nous ne partirons. Degré de force, nous garderons l'Arzac. Degré de force, nous garderons l'Arzac.
T'es bourré, t'es saoulant. Il faut pas rester là. Tout le monde est à cran. Tu peux jouer les ivrognes et chialer dans mes bras. Ta princesse s'en cogne, elle ne reviendra pas. Je sais ce que ça fait de perdre les pédales quand tu l'as rencontrée. Moi aussi, j'ai eu mal. Après tout, c'est chacun son tour. Un jour, le bonheur fout le camp. Le temps passe vite à faire l'amour, et l'amour passe avec le temps.
mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir, pendant le repas, voilà tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, les luttes immédiatement, chef du gouvernement.
Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union Pacifiste sur Radio Libertaire. Alors je vous propose aujourd'hui d'écouter dans cette émission l'entretien d'un journaliste que j'ai eu l'occasion de croiser quand je réalisais à l'émission Mosaïque, l'émission pour les immigrés. Alors donc c'était en 1976 et ce journaliste s'appelle Slimane Zeghidour. Slimane Zeghidour a écrit un livre que j'ai beaucoup aimé et qui a pour titre « Sors, la route t'attend », avec le sous-titre suivant « Mon village kabyle de 1954 à 1962 ». Alors vous avez remarqué que ces dates correspondent à la période de la guerre coloniale menée par l'armée française contre les indépendantistes algériens. Le récit de Slimane Zeghidour, qui retrace son enfance dans la guerre, nous éclaire sur des aspects encore peu connus de cette guerre, qui a toujours d'ailleurs des répercussions aujourd'hui dans les relations entre les Algériens et les Français. Cet entretien s'est tenu dans le cadre des midis de l'Institut de Recherche et d'Études Méditerranée et Moyen-Orient. Il est conduit par l'historien journaliste ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, Dominique Vidal. Alors je laisse la parole à Dominique Vidal pour la présentation de Slimane Zeghidour.
Donc je vous présente Slimane Zeghidour. C'est ce qu'on appelle un grand journaliste, par la taille, mais aussi et surtout par le talent. Il est éditorialiste à TV5 Monde, après avoir été grand reporter au Monde, à ce qui s'appelait à l'époque le Nouvel Obs, à Géo, à Télérama, El País, La Vie. Il vient de publier donc ce livre qui s'appelle « Sors, la route t'attend », qui n'est pas un livre de journaliste, je dois le dire. C'est un livre d'un homme qui part à la rencontre de ses racines, ou qui repart à la rencontre de ses racines. Je dois dire que souvent, c'est un exercice difficile, ce genre de livre, qui amène la soixantaine venue, nettement venue maintenant, une espèce de retour à l'enfance, en l'occurrence au bled kabyle. Et il est arrivé que des livres de ce type soient l'occasion d'attendrissement un peu égotique, parfois même ridicule. Et je veux dire que le livre de Slimane, c'est tout le contraire. L'enfance de Slimane coïncide avec la guerre d'Algérie. Et que donc, vous proposez dans votre livre quelque chose de très précieux, c'est-à-dire des va-et-vient permanents entre la petite histoire, si j'ose dire, la vôtre, celle de vos proches, du bled, etc., et puis la grande histoire, celle de votre pays, avec d'ailleurs quelques bonds en arrière vers la période du début de la colonisation et quelques bonds en avant vers la période de la guerre civile. Mais ce qui est très intéressant pour moi, l'ayant lu attentivement, j'y ai passé une bonne partie de mon week-end, c'est que même la grande histoire se manifeste au travers de la petite. C'est-à-dire comment les grands événements qui rythment la guerre d'Algérie, ou des événements antérieurs ou postérieurs, ont des répercussions sur la Mechta d'El Oujda, puis sur le camp de regroupement près du chantier d'Er Hagen. Et moi qui, pour des raisons familiales qui n'ont pas d'intérêt ici, croyais bien connaître cette page noire de l'histoire de France, j'avoue en avoir découvert de nombreux aspects que vous traitez très concrètement dans le livre. Et la première chose, je veux signaler, bien sûr, qui frappe, c'est la misère inouïe, je dis bien inouïe, du bled, des gourbis sans eau, sans électricité, un froid prégnant, pas de chauffage, la maladie qui emporte votre frère et ensuite votre sœur. Maladie, je signale qu'à l'époque, il y a 1 million de morts du typhus. 1 million de morts du typhus. Je pense aussi, au-delà de la misère, à la guerre des clans, qui est impitoyable, à l'exode régulier, on part, on revient, et ça frappera un certain nombre d'obsédés de l'islam, une absence totale de l'islam, qui n'existe pas dans la réalité de la vie de votre bled. Autre chose qui m'a beaucoup frappé, je choisis 2 exemples, je pourrais en prendre beaucoup d'autres, c'est les conséquences des massacres du 8 mai 45 à Sétif, à Guelma, à Kerata et dans tout le Constantinois. Je savais évidemment que l'horreur du 8 mai 45 en Algérie avait en réalité fermé la porte de la négociation et ouvert celle de la lutte armée avec, très vite après, 9 ans, la nuit du 1er novembre 1954. Mais je ne mesurais pas, et vous le verrez en lisant le livre, combien Sétif a marqué sur le terrain, dans l'ensemble de la Kabylie, mais en particulier là où vous vous trouviez. Et au fond, tout ça vous permet de répondre à une question que vous posez, et sur laquelle je conclurai cette brève présentation. Je vous cite. « Pourquoi des hommes vivant côte à côte depuis un siècle, en sont-ils si soudainement arrivés à s'étriper avec une cruauté aussi bestiale ?» Au fond, c'est une des questions qui traverse votre livre.
Après la présentation de Slimane Zeghidour et de son livre « Sort la route t'attend, mon village kabyle de 1954 à 1962 », présentation faite par le journaliste Dominique Vidal, Nous écoutons maintenant l'auteur du livre, Slimane Zeghidour.
Merci Dominique pour cette généreuse présentation. Alors, comment parler de ce récit ? En fait, l'idée d'écrire, de raconter l'histoire de mon village et du camp où j'ai grandi, a émergé dans ma tête dès mon adolescence. C'est-à-dire quand nous sommes arrivés à Alger après l'indépendance, on a eu un tel ostracisme de la population algéroise, un tel refus de nous accueillir, alors que nous venions quand même de l'enfer, de la guerre, que nous étions indépendants, tellement subjugués par le drapeau. On a été reçus avec une telle violence que dans mon esprit d'enfant, évidemment, cette violence était incompréhensible. Les enfants refusaient de jouer avec moi dans la rue. Ma mère allait les supplier de jouer avec moi. À l'école, on ne voulait pas s'asseoir à côté de moi. Que j'ai refoulé immédiatement le dialecte, les habitudes, j'ai essayé de faire plus algérois que les algérois, mais, et je vous assure que c'est vrai, secrètement, j'avais gardé une espèce de fierté, d'orgueil d'être celui qui vient du bled, et qu'un jour, il fallait que cette histoire du bled était intéressante et qu'il fallait la raconter. Ça, c'est le premier élément central de la pulsion à raconter cette histoire. Le deuxième élément qui m'a poussé à cela, c'est qu'après l'indépendance, j'ai lutté pendant 30 ans avec la bureaucratie pour faire venir l'électricité et la route qui ne sont jamais venues. Et donc, j'ai d'une certaine manière jeté l'éponge, renoncé complètement. Et le troisième élément, c'est celui dont parlait Dominique, c'est-à-dire on arrive à un certain âge, on a suffisamment de détachement, et on a envie de solder, de sortir toutes les photos de l'enfance, tout l'album, de classifier, dater, de plier et de classer l'affaire pour penser à autre chose. Voilà ces trois éléments. Maintenant, pour le cœur du récit. Il se trouve que sans la guerre d'Algérie, je ne serais pas ici à Paris pour raconter ce livre que j'ai écrit. Je ne l'aurais pas écrit. Je ne serai peut-être pas de ce monde. Je m'explique. Je suis né dans le Djebel, comme la majorité des Algériens de l'époque. Le Djebel, c'est un monde de montagnes, de clairières, de forêts, sans route pour y accéder. Quand la guerre a éclaté, les Fellahs, les Moudjahidines, étaient évidemment repliés dans les plis de ce Djebel que la population nourrissait. Les officiers de l'armée française, lorsque la guerre commence en 1954, se disent « Le seul moyen de priver le FLN de gîtes et de nourriture, c'est de retirer toute la population du Djebel vers la plaine où des militaires vont les contrôler. Et dans ce cas-là, le FLN sera livré à la solitude et il mourra et périclitera. » C'est une théorie qui est venue par des officiers qui ont fait l'Indochine et bien fou et qui ont été transférés directement de l'Indochine à l'Algérie. C'est la doctrine de la guerre révolutionnaire. Ils ont utilisé le concept de Mao, selon lequel la guérilla devait être comme un poisson dans l'eau. Eh bien, il fallait retirer l'eau au poisson et le poisson étouffera. Nous étions l'eau du bocal. Et c'est ainsi qu'à partir de 1957, et ça, c'est l'un des tabous. Le tabou de la guerre d'Algérie, ce n'est pas la torture, car la torture était connue dès 1957 avec Henri Alain. C'est les camps. C'est un tabou pour le gouvernement français d'avoir fait des camps. Et c'est un tabou pour le gouvernement algérien qui n'a rien fait pour ramener les gens chez eux. Donc jusqu'à maintenant, sur les camps, il n'y a pas un documentaire, il n'y a pas un colloque, il n'y a pas un livre, sauf un en France, sur les camps.
Que Michel Rocard avait dénoncé.
Et ensuite, Le Monde et Le Figaro sont allés faire des reportages. Donc, on nous met dans les camps. Et moi, quand on décide de nous déplacer en 57 vers les camps, j'ai déjà 4 ans. Donc, je me rappelle vaguement de quelques souvenirs au village, dans notre hameau. Et je me rappelle de l'arrivée dans le camp. Le camp était une cuvette entourée de montagnes, dans laquelle l'armée nous a installés et elle nous a classés, probablement avec l'aide d'ethnographes coloniaux, selon les clans, c'est-à-dire que la baraque que nous avions dans le camp étaient en face de la même maison que nous avions dans le village. Et les villages étaient géographiquement installés comme la topographie qu'ils avaient dans le Djebel. Donc on se retrouve, on était 100 personnes dans notre hameau, on se retrouve dans un camp de 6500 personnes venues de plusieurs hameaux environnants. J'ai dit baraque, mais c'était en fait des paillotes en toit de chaume, de briques et de broc. Mais, la nouveauté c'est que pour la première fois dans notre histoire, nous sommes amenés à côtoyer et à vivre côte à côte avec d'autres clans qui étaient des clans rivaux pour des haines ancestrales totalement oubliées. Un. Secondo, le camp était entouré de barbelés électrifiés, mais dans ce camp, j'ai vu, c'est notre entrée dans la modernité. J'ai vu un hélicoptère et un avion avant de voir une brouette ou un vélo, par exemple. Les premiers Français que nous avons vus, c'était des soldats. Les premiers instits que j'ai eus, et à qui je rends vraiment un hommage infini, étaient des bidas. C'était des petits soldats du Vaucluse, de la Corse, de la Bretagne, qui ont été d'un dévouement extraordinaire. Et les premiers infirmiers que nous avons eus étaient des soldats. Ce qui fait que j'arrive dans le camp, je découvre la caserne et l'infirmerie, le soldat et l'infirmier. Donc l'arrachement et l'entrée dans un autre monde. Car la logique des camps, ce n'était pas de nous tuer. En fait, la logique du camp, c'était que tactiquement, le camp servait à priver le FLN d'une niche nourricière, mais stratégiquement, il devait être un laboratoire d'une francisation accélérée. Car la République venait de se rendre compte, avec le début de la guerre d'indépendance, qu'elle pouvait perdre l'Algérie. Un, deux, qu'elle n'avait rien fait pendant 128 ans. Rien, mais absolument rien. Et vous lirez dans le livre le dénuement, mais absolu. Moi, j'ai découvert dans le camp, vous savez ce que j'ai découvert? Outre l'hélicoptère et l'avion, j'ai découvert les carottes, les aubergines, les courgettes, les oranges. Nous ne savions même pas que ça pouvait exister. Sans parler de la lampe électrique, du stylo, bref. Donc la République décide de faire du laboratoire, le laboratoire d'une fabrication accélérée, à cadence lourde, de Français. Et elle va entre 57 et 62 mettre plus d'argent, plus d'efforts que 120 ans précédents pour essayer de nous franciser. Donc l'école, les dispensaires, les routes et en même temps une politique d'approche psychologique avec les SAS, sections administratives spécialisées, qui étaient des agents de renseignement, agents d'influence, agents d'ambiance, tout ce que vous voulez. Il y avait un effort colossal. Et notre vie était rythmée le jour avec les officiers de la SAS, la nuit avec le FLN. Mais le paradoxe dans cette francisation accélérée, c'est que la France, et c'est vraiment le jour où on trouvera la clé de cette énigme, on comprendra beaucoup de choses sur la psychologie française et algérienne.
De pluie tout à coup sur nos fronts, sur nos champs, nos maisons. Un déluge ici, l'orage en cette saison. Quelle en est la raison? Est-ce pour noyer tous nos parjures? Est-ce pour des moissons, des terreaux plus fertiles? Est-ce pour les détruire? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un message, un cri du ciel? J'ai froid, mon pays, j'ai froid. As-tu perdu les rayons de ton soleil? Pourquoi cette pluie? Pourquoi est-ce un bienfait pour nous punir? J'ai froid, mon pays, j'ai froid, faut-il s'il le fêtait ou bien le maudit. J'ai cherché dans le livre qui sait, oh que de ces versets, j'y ai lu, cherche les réponses à ta question. Cherche le trait d'union, une mendiante sur mon chemin. Que fais-tu dans la rue? Il s'est mon mari sont partis un matin, aucun n'est revenu. Cette pluie, pourquoi c'est on ces nuages qui nous étonnent? Elle dit cette pluie, tu vois, ce sont des fleurs pour les yeux des hommes. C'est pour vous donner des larmes, depuis trop longtemps elles ont séché. Les hommes n'oublient pas les âmes quand ils ne savent plus pleurer.
Après
effectivement. Plus on est. Mon vie. Ça fait quoi? Rinage. Non, et c'est. Ça a été. Je me bats. Les cartes.
en avez. Mon vie. Ça fait quoi? Rinage. Quand est-ce que... Ça a été. Voilà. TV. Je me bats. Les cartes. plus en... Mon vie. Ça fait quoi? Rinage. Non, et c'est. Ça a été. TV. Je me bats. On écarte. plus en est. Mon vie. Ça fait quoi? Rinage. Non, et c'est. Ça a été. Je me bats. On écarte. Plus on est. Mon vie. Ça fait quoi? Rinage. Quand il s'est. Ça a été. TVZ. Tu me bats. Les cartes.
Chaque goutte de sang versée par un enfant, si de chaque goutte de sang versée par un enfant jaillissait un coquelicot, jaillissait un coquelicot, la terre ne serait plus bientôt, la terre ne serait plus bientôt qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge, qu'une énorme boule rouge. Comme la honte, rouge comme la honte, qui devrait empourprer nos visages, qui devrait empourprer nos visages, si nous avions le courage. Una enorme bola roja
anticlérical, fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique. Cet aveu me coûte beaucoup. Mais ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous des dégueulasses. Témoin le curé de chez nous. Comme aucune de remords. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stalles, mort à toute peine de mort. Puis on le vit étrange rite qui baptisait les marguerites avec l'eau de son bénitier. Et qui prodiguait les hosties, le pain béni, l'eucharistie, aux petits oiseaux du moutier. Ensuite, il retroussa ses manches, prit son goupillon des dimanches, et plein d'une sainte colère, il partit comme à l'offensive.
Allô ? Radio Libertaire 89.4. Alors on a un petit problème technique, c'est Jeudi Noir qui devrait commencer. Mais on n'arrive pas à lancer le son. Donc on va se battre un petit peu avec la console et si on y arrive, on fera l'émission. Voilà.
Ce jour-là, le rôle du Christ, bonne aubaine pour le touriste, était joué par un pendu. Et maintenant, quand on croasse, nous, les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut dépriser. Quand on crie à bas la calotte, à s'en faire péter la glotte, la sienne n'est jamais visée. Anticlérico-fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique. Je vous exhorte, camarades, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là.
Tes griffes, pose tes dents. Viens ronronner sur le coussin, ma tête contre tes tétines. Viens ma chatonne, viens ma féline, ma siamoise beige. Allez, viens. Viens-t'en. Viens-t'en.